Tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. 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 Unverzüglich.
Je m'appelle Andrea, j'ai grandi à Berlin-Est et j'avais 18 ans quand le mur est tombé. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Andrea, j'habite à Mélan, mais je n'ai pas toujours habité à Mélan. Je viens de Berlin-Est, donc pour ceux qui ne se rappellent plus trop bien, Berlin-Est, donc c'était la capitale de la RDA, de l'Allemagne de l'Est. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'était de vivre derrière le mur, pourquoi il y a eu le mur, et comment ça se fait que maintenant je suis ici et que j'ai pu être libre d'aller où je souhaite. Parce que donc, pour ceux qui n'ont pas appris ça à l'école ou qui ne se rappellent plus parce que c'était le cours, ils dormaient. L'Allemagne, après la guerre, a été coupée en quatre par les alliés, donc les forces victorieuses qui se sont un peu partagées l'Allemagne. Chacun a pris son petit bout. Donc, il y avait une zone des Français, la zone des Américains, la zone des Anglais et la zone des Russes. Et comme chacun voulait aussi avoir son petit bout de la capitale, donc de Berlin, Berlin a également été coupé en quatre. Donc une zone russe, une zone française, une zone anglaise et une zone américaine. C'était comme ça, donc de 1945 jusqu'à 1949. En 1949, il y a deux États qui se sont créés. Donc les trois alliés occidentaux, on va dire, donc la France, les US et l'Angleterre, ont créé l'Allemagne de l'Ouest. Et la Russie a permis la création de l'Allemagne de l'Est. Mais on avait toujours donc ce petit souci, cette capitale, donc Berlin, en plein milieu de la zone russe, donc du côté de l'Allemagne de l'Est, mais également coupée en quatre, avec les trois zones, des trois zones occidentaux qui ont créé du coup Berlin-Ouest et la zone russe qui a créé Berlin-Est. Donc là, on est en 49. Et ça s'est poursuivi pas mal de temps comme ça, avec donc des allers-retours. Les gens, ils vivaient à Berlin-Est ou à Berlin-Ouest, ils faisaient des allers-retours. Alors le souci était surtout pour l'Allemagne de l'Est que beaucoup de médecins, d'avocats, de gens en fait dans les positions assez élevées, vivaient à Berlin-Est tout en allant travailler à Berlin-Ouest. Donc c'était tout bénef. Ils vivaient là où ça coûtait pas cher et ils gagnaient de l'argent de l'autre côté. Donc à un moment donné, pour éviter cette fuite des cerveaux, la Russie, c'était surtout la Russie parce qu'en fait toutes les décisions en Allemagne de l'Est étaient guidées par le grand frère russe, la Russie a décidé de fermer la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et de le faire en une nuit pour vraiment prendre les gens par surprise. Et donc la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur a été construit. Donc vous allez me dire, on ne construit pas un mur en une nuit. Non, effectivement, c'était des barbelés. Mais c'était vraiment des barbelés avec des soldats placés, tous les deux mètres, tout autour de Berlin-Ouest, pour l'isoler du coup de la partie Berlin-Est et de la RDA. Et donc les gens se sont réveillés le 13 août 1961 et ne pouvaient plus aller de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. En fait, c'est comme si on coupait aujourd'hui Mélan de la tranche. Et si on a la famille à la tranche, et tant pis, on ne peut plus aller les voir. Donc c'était vraiment, ça s'est vraiment fait en une nuit. Et moi je n'étais pas née. Par contre, mon père, qui est né en 1940, et qui est né à Berlin, il s'est trouvé... Voilà, par hasard, parce que c'était du pur hasard, du côté est. Et son frère, donc mon oncle, était du côté ouest. Et en une nuit, les deux frères ont été séparés. Il était jeune, mon père, il avait 21 ans. Son frère, il avait 19, je crois. Ma grand-mère habitait aussi du côté est. Donc en une nuit, la famille a été complètement coupée en deux. Moi, j'ai grandi à Berlin-Est, donc je suis née en 71. C'est peut-être intéressant de se dire c'était comment de vivre dans cette ville qui était quelque part une grosse prison, mais on ne le ressentait pas comme ça parce que moi j'ai toujours connu le mur, je suis née avec. Donc on se pose beaucoup moins de questions que peut-être la génération d'avant qui a eu un avant et un après. On n'était pas malheureux, faut pas dire qu'on était malheureux, faut pas dire que les gens ils mangeaient à leur faim, ils allaient au cinéma, au théâtre, etc. Mais comme c'était donc un État qui s'est remis difficilement de la Deuxième Guerre mondiale, parce que contrairement aux zones de l'Ouest qui ont eu des plans Marshall et des injections de dollars et qui ont pu se reconstruire très rapidement et qui ont eu des années 50 glorieuses, l'Allemagne de l'Est, la Russie a plutôt vidé les usines, a pris en tant que grand gagnant tout ce qu'il pouvait. Et donc l'Allemagne de l'Est avait un peu du mal à se relever de tout ça. Je me rappelle encore les immeubles où on habitait. C'était très vieux. Il y avait encore des impacts de balles, parce qu'ils n'ont jamais vraiment rénové les immeubles. Et c'était très, très difficile de se loger. Il y avait une grande pénurie de logements. Donc, par exemple, mes parents, ils se sont mariés. Je suis née. Et ils étaient sur liste d'attente un appartement. Mais ils n'ont pas eu. Pendant des années, ils vivaient avec ma grand-mère, donc la mère de mon père, dans un T2. Moi, ma mère et mon père dans une chambre et ma grand-mère dans l'autre chambre. Et c'est quand j'ai eu 6 ans qu'on a eu notre premier appartement. Et là aussi, j'ai des souvenirs c'était des appartements très anciens, avec des fois même des toilettes qui étaient à l'extérieur. Nous, on habitait au 4e étage et mon père, tous les matins, à 6h du matin, il descendait dans la cave. Et il montait du charbon dans l'appartement pour chauffer un petit peu les pièces et puis même l'eau, on chauffait l'eau avec du charbon. Et voilà, donc j'ai grandi jusqu'à mes 12 ans comme ça.
Et tes parents, comment ils ont fait pour un autre logement alors ?
Alors, pour avoir un autre logement, pareil, il y avait des listes d'attente, forcément. Mais ça ne suffisait pas, c'est-à-dire il fallait en plus donner de son temps gratuitement, bénévolement, pour à un moment donné avoir le droit d'être sur cette fameuse liste. Donc je me rappelle mon père, pendant plusieurs années, un week-end sur deux, il creusait des tunnels, il aidait à construire des routes, parce qu'en fait il devait atteindre un certain quota d'heures de travail bénévole pour avoir le droit de monter sur cette liste d'attente. Alors je ne sais pas combien c'était.
Mais ce n'était pas son métier, oui.
Ah, pas du tout.
Tu faisais quoi ?
Alors, mon père était ingénieur, donc ce n'était pas si loin que ça, mais je ne pense pas que mon père, il savait construire un tunnel. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur faisait faire, en fait. Franchement, j'en sais rien, j'étais jeune, je ne sais pas. Mais j'ai ce souvenir de mon père qui partait le week-end, tous les dimanches, parce qu'il fallait faire les heures pour avoir un jour un appartement un peu plus moderne. Et quand j'ai eu 12 ans, donc on a eu un appartement moderne avec l'eau chaude qui sortait du mur, avec chauffage central, etc. Mais qui était, je ne me suis jamais sentie bien là-bas, qui était un petit peu ce qu'on aurait aujourd'hui à Grenoble, à la Villeneuve. Donc c'était des grands quartiers avec des grands immeubles de 11 étages. On vivait un peu dans un chantier, on était loin du centre-ville. Voilà. Je ne me suis jamais vraiment sentie bien là-bas. Mais pour mes parents, évidemment, c'était chacun sa chambre. Chauffage central, c'est pour eux, c'était vraiment... Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans cet immeuble, aujourd'hui, ces immeubles existent encore. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme la même histoire peut-être que la Villeneuve. Aujourd'hui, c'est plutôt des familles, on va dire, des classes défavorisées qui habitent. Alors qu'à l'époque, dans mon immeuble, il n'y avait que des familles très favorisées. Il y avait des ingénieurs, des cadres, etc. Parce qu'il n'y a qu'eux qui avaient eu accès à ces appartements. Et ensuite, après la chute du mur, beaucoup de gens ont quitté ces immeubles, se sont installés en centre-ville, etc. Ce qui a fait basculer, du coup, ces quartiers. Alors qu'avant, c'était des quartiers donc, de cadres.
Tu as dû changer d'école ?
Bah oui, justement. Et ça, c'était très difficile. Il ne faut pas sous-estimer l'impact d'un changement d'école. Moi, je ne me suis jamais, jamais, jamais sentie chez moi là-bas. Alors, est-ce que c'était... Je ne sais pas. Peut-être aussi parce que du coup, je me suis retrouvée dans une classe où il n'y avait que les enfants de cadres, forcément. Mes parents étaient cadres aussi, mais je ne sais pas. Je trouvais qu'ils étaient hautains. C'était complètement différent de ce que j'avais connu dans mon petit quartier du centre-ville où il y avait beaucoup de mixité. je ne sais pas, je n'aimais pas. Je ne me suis pas trop sentie. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dans ma classe, alors ça aussi, il faut peut-être le raconter, dans ma classe, il y avait pas mal d'enfants qui avaient de la famille à l'ouest. Moi, j'avais que mon oncle, en fait, et mon cousin, mais il y en a qui avaient vraiment une bonne partie de leur famille à l'ouest. Et donc, les familles de l'ouest pouvaient, si elles voulaient, soutenir financièrement leur famille de l'est. Et donc, il était très important pour avoir un bon statut dans la classe, de porter des vêtements de l'Ouest, d'avoir des jeans Levi's, d'avoir, etc. Si on était habillé en vêtements d'Est, franchement, voilà, on n'avait pas trop la cote. Et moi, mon oncle, il ne nous soutenait pas trop, pas quasiment pas. Donc, j'avais 2-3 trucs, mais pas grand-chose. Et du coup, je ne faisais pas partie de l'élite de la classe, alors qu'il y avait des filles qui avaient des vêtements de l'Ouest, qui pouvaient amener un kiwi le matin à l'école ou un Kinder Surprise, etc. Et qui, du coup, étaient un peu les rois de la cour. Et ça, je l'avais moins connu dans mon petit quartier d'avant, quoi.